Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Lors des dernières émissions, La Voix des Arts vous a conduit jusqu'à notre époque et plus particulièrement les deux dernières émissions à nous intéresser à l'artiste plasticien, peintre-sculpteur, à son statut et au rôle qu'il est susceptible de tenir dans la société. Alors, j'ai pris pour exemple mon expérience, sachant pertinemment bien que celle-ci est limitée, car elle concerne surtout celle d'une artiste dont l'expression est la sculpture et plus particulièrement le modelage. Et c'est en effet une forme d'expression moins usitée et répandue que la peinture. Mais elle est aussi plus contraignante puisque les trois dimensions imposent un volume et un encombrement qui nécessitent une manutention spécifique avec un déploiement d'énergie et de moyens supplémentaires. De plus, je suis une artiste plutôt provinciale, c'est-à-dire qui s'intègre à son environnement pour participer à la vie locale, y créer du lien, animer et favoriser les échanges à tout point de vue. Et personnellement, il est vrai que je l'ai fait avec une implication qui a outrepassé mes prérogatives d'artiste, puisque ce le fut jusqu'à éroder mes forces vitales. Mais je l'ai bien voulu, car je croyais en ce rôle social, à celui d'éducateur artistique et culturel, puisque l'art était le meilleur moyen pour moi de m'impliquer dans la société. Et de surcroît, exercer hors des dispositifs et soutiens d'État parce que l'expression ne rentre pas dans les normes actuelles entraîne également des répercussions, parce que l'équilibre ne peut être trouvé entre le donner et le recevoir. Et d'ailleurs, ces problèmes se sont intensifiés encore lorsque s'élevèrent les habituelles oppositions de ceux qui critiquent, envient, bref, tout ce qui confère à votre travail une certaine qualité, à prendre plutôt comme un compliment, à condition d'être suffisamment armé et solide pour cela, ce qui n'était pas mon cas pour les raisons exposées ci-dessus. Cependant, et je tiens à le dire, en dehors de ces particularités personnelles, mon expérience d'artiste provincial, plutôt traditionnelle dans ses méthodes d'expression, assurant seule sa promotion, est néanmoins représentative d'une catégorie d'artistes dont le nombre est conséquent si on y inclut les peintres bien plus importants en nombre que les sculpteurs. Alors pour ceux inscrits dans le champ de la reconnaissance des institutions, ceux-là bénéficieront en plus d'un soutien financier grâce à des commandes d'État pour des prestations, installations, performances qui leur seront demandées. Et ils pourront en outre participer à des projets mis en place par l'institution et trouveront portes ouvertes pour des résidences d'artistes dans une région différente de la leur, de manière à ce qu'ils puissent s'immerger dans un environnement différent propice à leur créativité. Et certains artistes ne fonctionnent que par ce biais, alors que d'autres mixteront les possibles, chaque forme d'expression alliée à chaque initiative d'artiste imposera sa spécificité pour la diffusion. Nous allons d'ailleurs nous intéresser aujourd'hui aux circuits de diffusion. Alors ils sont variés autant qu'il y a d'artistes, j'ai évoqué les dernières fois ou plutôt survolé le sujet lorsque j'ai abordé l'une des fonctions de l'artiste qui s'exprime plus particulièrement dans des manifestations locales festives et conviviales. Alors en ce qui concerne les circuits de diffusion, vous trouvez les foires, les salons, expositions diverses bien évidemment, généralistes ou spécialisées, destinées à l'animation ou à des manifestations festives. Certaines seront plus précisément artistiques ou culturelles, ou d'autres seront dédiées au commerce. Et ces foires et ces salons, expositions, sont proposés au niveau local, régional, national, voire international. Et ils regroupent amateurs ou professionnels quand ils ne mixent pas les deux. Et à titre d'exemple, sur une foire dédiée principalement aux potiers, vous pourrez rencontrer un modeleur de la terre avec des créations qui sortent de l'utilitaire. Idem sur un salon des métiers d'art. Et parfois, vous y trouverez des peintres se mêlant à des décorateurs. Alors, lors d'une manifestation festive, culturelle ou à thème, une ou des expositions de peinture pourront être programmées. Et ce fut le cas, par exemple, dernièrement, lors du Festival Ciné Espagnol, initié et organisé par José Santos Dusser, assisté de son épouse Elisabeth et entouré de bénévoles associatifs. Et ce festival s'est déroulé en mars et avril à Périgueux et dans les villes alentours. Alors, le cinéma espagnol était mis à l'honneur avec projection gratuite de films pour réjouir les cinéphiles et tous, adeptes ou non des cultures hispaniques, étaient invités à découvrir au milieu des films, notamment des littérateurs espagnols. Et cette année, nous avons pu apprécier, notamment à la librairie des Ruelles à Périgueux, la présence de deux écrivains très différents dans leur style d'écriture, une charmante dame nommée Amy Zanon et l'autre écrivain connu maintenant au festival, nommé Alphonse Cervera. Alors la musique était remarquablement représentée par des musiciens de talent qui ont su en outre nous communiquer, grâce à la chaleur de leur personnalité, le charme de l'Espagne, notamment du Sud, avec le compositeur Salvador Paterna, déjà présent l'année dernière, et cette année en plus avec le musicien Juan Edo. Et entre autres, Martine Balou, responsable du patrimoine, nous a fait visiter la ville de Périgueux pour souligner les liens entre la ville et l'Espagne. Et donc, en parallèle du cinéma, de l'écriture, de spectacles musicaux, de conférences et également des interventions du musicien Salvador Paterna dans les écoles, vous étaient proposées des expositions artistiques, notamment la peinture, organisée pour l'occasion. Alors, ce fut à Périgueux, à la galerie L'Événementiel, qu'exposèrent les peintres actuels, mêlant enfants aux adultes, ou bien au NTP, le nouveau théâtre de Périgueux, qu'exposèrent artistes espagnols et français. Et ce, pendant que dans d'autres lieux divers du Périgord, notamment Sorgues et Excideuil, étaient exposés les célèbres caprices de Francisco Goya, peintre espagnol réputé du XVIIIe-XIXe siècle. Et en même temps, l'association locale Excideuil présentait de son côté les eaux-fortes de la péruvienne Carmen Herrera Norlov. Bref, tout cela pour vous dire que tous les arts se mêlaient autour de cette manifestation particulière, les uns enrichissant les autres, et au final pour proposer à tous et à chacun de partager art et culture en mêlant le plaisir des rencontres. Alors je signale tout de même que cette manifestation a lieu chaque année à peu près à la même période, ce que vous pouvez suivre si vous vous trouvez en Périgord. Alors, concernant les circuits de diffusion comme de présentation des œuvres, tous les possibles coexistent et les artistes ont l'embarras du choix selon leur mode d'expression, leur motivation et également l'état de leurs finances, car toutes ces foires et ces salons engagent en général des frais de participation et d'exposition dont les artistes sont invités à s'acquitter. Alors, ces foires et ces salons, festivals, peuvent être proposés et initiés par des associations locales ou nationales, des mairies, les régions, des collectifs d'artistes ou des professionnels spécialisés dans l'événementiel ou en collaboration avec les uns et les autres. Les tarifs varient en fonction de l'importance de l'événement et ou du prestataire. Et parfois la gratuité est proposée, à charge pour l'artiste plasticien, peintre ou sculpteur, de se débrouiller pour financer ses déplacements, hébergements, etc. En tout cas, ce qui lui est nécessaire pour venir exposer sur place. Et dans d'autres cas, les frais peuvent être pris en charge par l'organisateur. Alors tout se négocie et chacun voit en fonction de son propre cas et de ses possibilités. Alors, j'ai abordé la dernière fois le droit de monstration qui concerne la rétribution qu'un artiste, plasticien, peintre, sculpteur, professionnel est en droit de demander à une mairie pour exposer. Alors il le fait, il ne le fait pas, à l'artiste de voir pourquoi. Je vous invite à écouter l'émission 18 qui aborde le sujet, où ce droit serait légalisé pour permettre aux professionnels qui sont censés apporter une plus-value de toucher une rétribution pour service rendu, comme c'est le cas pour les intermittents du spectacle, musiciens, comédiens, etc. Alors en général, les petites associations locales, mairies, souvent pour leurs frais de dossier, voire d'exposition, demandent des participations relativement modiques. Parfois, pour la location d'un local, il est demandé à l'artiste de participer aux frais. Alors, ce sont des sommes qui s'échelonnent de 10, 15 euros jusqu'à 100, 200 euros, tout dépend du contexte. Alors, pour des salons plus importants, les sommes augmentent également de 200, 300 euros, dépendant du nombre de pièces à exposer ou de surface à louer, et les prix peuvent facilement atteindre des sommes bien plus importantes, 2000, 3000, 5000 euros, si ce n'est plus, surtout si les salons sont organisés au niveau national par des spécialistes de l'événementiel. Alors l'artiste fait son choix en fonction de ses motivations, possibilités financières et aussi dépendant de ses chances de vendre. Donc tout cela se calcule, s'évalue du point de vue de chacun. Et à côté de toutes ces foires et salons ponctuels plus ou moins commerciaux, eh bien vous trouvez les galeries d'art dont les locaux, selon le cas, sont ouverts à l'année ou pour une certaine période, correspondant généralement à l'affluence touristique. Donc tout dépend du lieu où la galerie est située. Et là aussi, vous trouvez toutes sortes de galeries. Ce sont des galeries marchandes, évidemment. Il ne faut pas oublier que le galeriste doit assumer les frais inhérents au fonctionnement de son fonds de commerce, la location, droit au bail, électricité, etc. Et les galeristes sont avant tout des marchands d'œuvres d'art qui espèrent aussi faire un bénéfice. Et c'est légitime, car eux aussi doivent vivre, surtout lorsqu'ils exercent leur métier à plein temps. Aussi, en échange du local, parfois aussi de la publicité et de la promotion qu'ils doivent faire autour de l'artiste, eh bien, ils vont demander un pourcentage sur les ventes. Et en général, c'est comme ça que cela se passe. Et en fonction de leur public, de leur clientèle, ils vont bien évidemment sélectionner les artistes qui répondent à certains critères que eux auront déterminés par rapport à leur chance de réaliser une opération commerciale. Alors comment cela se passe avec les galeristes? Eh bien vous proposez vos œuvres, le galeriste choisit, vous savez en gros le prix que vous en voulez et vous déterminez avec lui le prix de vente, sa commission incluse correspondant en général entre 30 et 50% du prix de vente. Alors en ce qui concerne la sculpture, notamment pour le bronze, normalement la part attribuée à chacun est d'un tiers du prix total, c'est-à-dire que l'artiste reçoit un tiers, le fondeur d'art qui a fourni et réalisé le bronze en collaboration parfois avec l'artiste également un tiers et le galeriste un tiers. Mais certains galeristes ne s'encombrent pas de ces considérations et prennent 50% sur le montant total comme ils le feraient avec des peintres. Libre à l'artiste d'accepter ou non, de toute façon, ces négociations sont nécessaires et débouchent sur un contrat en bonne et due forme avec des engagements réciproques. Alors parfois, et notamment sur Paris, ben j'en ai connu, certains galeristes louent un emplacement dans leur galerie et demandent en plus à l'artiste une commission sur vente réalisée entre 30 et 50%. Celui à qui je pense était 40% et non pas 50% comme la plupart de ses confrères. Et je me souviens qu'il me l'avait annoncé tout fiero comme s'il s'agissait d'un scoop et surtout d'une bonne affaire à réaliser. Il n'avait pas précisé que c'était pour lui. Alors je reconnais qu'il était très bien placé dans un quartier privilégié, à la fois passant et aussi plutôt argenté. Mais bon, louer un emplacement au mètre carré assez cher, bon je me souviens plus précisément du tarif, avec en plus donner une commission de 40% sur vente, demande à bien considérer la question par rapport aux pièces que vous désirez vendre. Alors si pour l'artiste l'objectif est de vendre pour faire un bénéfice, est-il judicieux d'accepter ce type de contrat? Alors à chacun de voir et d'estimer si le jeu en vaut la chandelle. Alors pour moi la réponse était claire et définitive, c'était non. Alors pourquoi? Eh bien d'une part parce que je n'encourage pas ce que j'estime être un abus et une exagération, inutile pour ma promotion et qui affaiblira de surcroît mes finances si j'y intègre en plus tous les frais. Et d'autre part, ben justement, parce que devant gérer au mieux mes finances et mon énergie, j'estimais de surcroît, et vous pouvez écouter les deux dernières émissions qui abordent le statut d'artiste, que ayant largement respecté en devoir ma part de contrat citoyen, en enfonçant le clou par conviction idéaliste, sans recevoir les droits légaux en contrepartie, j'avais pris suffisamment de risques pour que ceci me pousse vers une paupérisation dangereuse, même pour ma créativité future. Alors quoi qu'il en soit, ces considérations n'ont pas empêché le marchand de faire recette, au moins auprès de pseudo-artistes qu'il racolait, puisque évidemment, au bout d'un moment, sa galerie ressemblait plus à un souk ou à un bazar, car on n'y voyait plus rien qu'à une galerie d'art. Alors c'est mon avis, je n'ai rien contre les souks et les bazars, bien au contraire, c'est plutôt amusant d'essayer d'y dénicher quelque chose de sympa, mais j'ai tendance à penser qu'une galerie d'art n'est pas un bazar et demande un peu plus de tenue et de visibilité. Alors en effet, même si dans les deux cas, ce sont des lieux où les objets proposés sont destinés à la vente, les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. En galerie, des tièces, tierces personnes sont impliquées, les artistes pour ne citer qu'eux, et le minimum qu'un artiste est en droit de recevoir, surtout s'il paye d'avance son droit d'exposer, c'est que son œuvre soit visible et mise en valeur pour favoriser ses chances de vendre ou de se faire connaître. Et j'ai tendance en général à penser qu'un tableau, une sculpture et donc une œuvre d'art, a besoin d'un minimum de visibilité pour retenir l'attention. Et dans la pagaille, ben, comment apprécier des œuvres lorsqu'elles sont privées de valorisation grâce à un éclairage adapté et un agencement judicieux ? Et je conçois ça en outre comme un manque de respect vis-à-vis de l'œuvre et donc bien évidemment vis-à-vis de l'artiste. Mais peut-être dois-je imputer ce fait à une éducation où le respect de l'autre passe également par la correction de sa tenue, et dans ce cas, ce dernier paramètre est en relation avec ma subjectivité que je ne suis pas censée partager avec le reste de mes congénères, ce qui me demande d'ajuster mon système de valeurs si besoin est. Et pourtant, bien présenté, ou du moins correctement présenté, l'œuvre concentre l'attention en empêchant le regard de s'épuiser en s'éparpillant. Et c'est ce confort visuel qui participe à mettre un spectateur en état de contempler, favorisant potentiellement chez lui l'acte d'achat. Et de surcroît, la nature de l'objet d'art, censé impliquer des mots comme singulier, original ou insolite, est respectée. Et là, ce que je dis est basé sur des règles d'exposition et de présentation expliquées dans des écoles spécialisées. Et ces règles se sont construites sur des théories qui elles-mêmes reposent sur une expérience qui a fait ses preuves. Aussi est-il utile de les appliquer lorsque, dans votre travail, vous devez mettre en valeur des objets destinés à la vente. Bon, j'espère que je suis claire et que je ne me suis pas égarée dans des explications par trop alambiquées. Alors, quels sont les artistes qui acceptent de payer un emplacement pour ensuite reverser un pourcentage ? Bon, déjà, en général, ceux qui acceptent ce genre de contrat n'ont pas de problème d'argent parce que leurs revenus sont suffisants, et souvent ils le sont parce que l'artistique n'est pas leur principale source de revenus. Et en effet, la plupart exercent une profession à côté et peignent ou sculptent en dilettante. En tout cas, ils bénéficient d'une stabilité matérielle et d'un surplus financier qui leur permet de se laisser aller à leur envie ou caprice du moment. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Alors, pourquoi le font-ils ? Eh bien, pour la plupart, ce sont donc des personnes qui ont envie de se montrer, de se valoriser, avec un engagement en art uniquement limité à satisfaire leur ego. Et pourquoi pas, si ça leur fait plaisir ? Et comme ils ont réussi à produire une peinture ou une sculpture qui les satisfont, ou qui leur vaut l'éloge des copains, eh bien, c'est plutôt une bonne idée de le mettre dans une galerie, puisque c'est possible moyennant finance. Et le marchand galeriste n'est pas dupe. Mais il est vrai qu'à côté de cela, d'autres plus engagés mais aussi moins argentés débutants qui ont envie d'émerger ou qui se laissent séduire par les possibilités du lieu vont se faire happer par ce genre de pratique. Alors ils croient, rêvent ou espèrent et donc tentent leur chance. Aussi, s'ils ne retombent pas financièrement sur leurs pieds, au moins et au mieux espèrent-ils se faire remarquer et peut-être vendre ultérieurement. En tout cas, ils feront leur expérience et constateront dans le concret ce que leur décision leur apporte. Et en tout cas, le résultat final risque d'être plutôt décevant et malheureusement, il l'est pour quelques-uns qui seront poussés ainsi un peu plus vers la paupérisation. Alors j'ai échappé à ce genre de pratique malgré les rondes jambes du galeriste qui s'est plutôt fié à ma bonne mine de l'époque, encore en décalage avec l'humble austérité de mon porte-monnaie lié à celui au fond d'un aspect de ma nature et de mon existence, mais ça il pouvait pas le deviner. Et d'ailleurs, je suis toujours restée très raisonnable en matière de financement de mes moyens de diffusion. Et j'aurais peut-être de l'être également au niveau de mon énergie vitale, même si encore maintenant, dans d'autres situations, il m'arrive de déraper. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, toutes ces pratiques restent une manne pour le marchand-loueur qui a bien saisi dans son ensemble la psychologie de tout ce petit monde. Alors lui non seulement ne prend aucun risque, mais il assure ses arrières, car il aura toujours de quoi payer son fonds de commerce, voire faire son bénéfice, sans avoir besoin de vendre outre mesure, tant qu'il y aura des nantis occupés à se passer de la pommade, des artistes modestes qui s'illusionnent, ou simplement d'autres plus cotés et reconnus, parce que leur clientèle est assez étendue et informée pour acheter d'un bon prix. Et ainsi, ils limiteront la casse ou retomberont sur leurs pieds. Bon, maintenant, je n'ai pas évalué quel pourcentage dédié à chaque catégorie d'artistes était le plus important, mais je ne doute pas, sauf pour certains, que les mieux à l'aise financièrement aient été les plus satisfaits, à commencer par le marchand. Ceci dit, chaque artiste ou créateur ou simplement réalisateur d'une peinture, sculpture, photo, etc., voit son intérêt particulier et choisit la galerie ou toute autre forme de diffusion qui lui convient. Alors pour en revenir aux galeristes, tous les types de galeristes existent, comme existent toutes sortes de formes d'expression artistique, et les personnalités sont comme partout. Le principal est de trouver le bon galeriste, la personne correcte qui présentera votre travail à la clientèle susceptible de s'intéresser à vous. Alors dans mon périple, j'ai eu la chance de rencontrer des galeristes consciencieux, impliqués et corrects avec qui j'ai entretenu de bons rapports, qui m'ont vendu, sauf une qui s'est révélée être un escroc mais que j'ai évité de justesse, donc pas de mal. Mais je ne résiste pas à l'envie de mentionner le dernier en date, galeriste intelligent et humain, très aimé de ses artistes qu'il défend, faisant preuve d'un véritable talent dans la pratique de sa profession. Un extraterrestre, lui aussi, comme parfois savent en débarquer certains sur notre Terre, pour susciter chez les autres une certaine perplexité. Et il s'agit de Christian Servant, le passeur d'art, émigré de Libourne au château d'Olonne pour s'éloigner, hélas, un peu plus de ses artistes situés trop au sud de la France. Christian, sache que tu me fais toujours râler de regret lorsque je passe près de Libourne. Bon, revenons au circuit de diffusion, que je ne me laisse pas distraire par la voix profonde de Christian qui me fait bégayer, car moi seule, je l'entends à présent, m'inviter à lui rendre visite au château d'Olonne. Bon, alors certains artistes décident également de se réunir pour exposer ensemble à moindre coût dans un espace, loué ou prêté, et réalisent toute la logistique eux-mêmes. Alors d'autres créent des associations, des collectifs d'artistes, ayant compris que l'union, c'est la force face à un monde qui de toute façon restera difficile, voire parfois cruel, pour les plus fragiles. Et dans ce contexte, ils créent l'événement pour une période donnée et proposent ainsi leurs œuvres à la vente. Alors les autres exposeront chez eux, c'est le cas notamment des artistes dont l'atelier est accolé au logement et qui disposent d'espace pour constituer une galerie d'exposition où ils pourront également vendre. Et ils feront partie, comme je l'ai fait moi-même à un moment, avec la route des métiers d'art, d'une route d'artistes pour proposer en collaboration avec d'autres un parcours de visite d'un atelier à l'autre. Alors une autre possibilité, notamment pour les peintres ou les photographes, c'est de s'arranger avec un commerçant, par exemple un restaurateur, pour exposer leurs œuvres sur les murs du commerce ou du restaurant, chacun trouvant son compte dépendant de leur accord. Alors toutes sortes d'idées émergent pour favoriser les expositions et la diffusion des œuvres, que ce soit par le biais d'accords entre artistes ou entre les différents acteurs culturels ou des commerçants ou des porteurs de projets, qu'ils soient artistiques, culturels, sociaux, etc. Alors ce que l'on peut constater, c'est que les créativités de chacun, artiste ou non artiste, s'expriment à tous les niveaux, dans des buts divers et variés, promotionnels ou non, qu'ils soient de lieux, d'espace ou d'artistes, au travers de manifestations diverses qui vont du festif au social, en passant par le culturel, éducatif, jusqu'au commercial. Donc l'éventail est large malgré tout. À charge pour l'artiste de prendre son bâton de pèlerin, si je peux m'exprimer ainsi, pour partir à la recherche de ces circuits de diffusion. Alors j'ai sillonné tous ces circuits durant quelques années et même provoqué des événements, organisé certains, en essayant d'orienter tant que faire se peut mes actions vers des buts qui me correspondaient intrinsèquement, à savoir des projets socio-culturels et éducatifs et orientés aussi selon le cas vers une possibilité de concrétisation commerciale. Et j'ai rencontré lors de mes pérégrination, et bien des initiateurs, notamment des initiatrices de projets plus que valables, que je salue au passage pour le travail constructif et utile qu'elles ont réalisé. Et c'est parce que j'ai répondu présente pour participer à leur projet dans lequel je me suis inscrite en tant qu'artiste que j'ai pu apprécier leur qualité et leur professionnalisme. Et je citerai entre autres le remarquable peintre sur soie Anne Lan, artiste accomplie, mais aussi promotrice d'art et de culture et dont les efforts pour lier l'art et la science en Limousin ont été conséquents. Je nommerai Ali Kistine, qui a su mener campagne pour sauver et protéger une race ancestrale de chevaux, etc. Mais comme je vous l'avais exprimé précédemment, j'ai trouvé dans bien des lieux, auprès d'employés de mairie et de membres d'associations, des personnes compétentes et dévouées à leur cause et à leur travail. Et j'ai évidemment aussi rencontré et eu affaire, hélas, mais cela fait partie de la vie, quelques parasites jaloux, hargneux et vindicatifs sous le couvert de bonnes paroles qui en général s'empressaient de ponctionner et éliminer pour profiter des fruits de votre travail. Bon, tout existe aussi. Enfin bref, en parallèle de tout cela, et donc en même temps, comme bien d'autres artistes, eh bien j'ai essayé d'assurer ma promotion, de mettre en valeur mes créations, et de vendre dans des salons, sur des lieux d'exposition dédiés à cela, et dans des galeries, et même à l'atelier, lorsque j'étais, comme je le disais, sur la route des métiers d'art en Périgord. Et toutes ces entreprises furent couronnées en général d'un certain succès, même si la partie financière laissait à désirer. Néanmoins, ce parcours fait que, même si je ne suis plus vraiment dans la course maintenant, je n'ai rien à regretter de ce passé bien rempli, qui me permet d'en parler ici à RLP, à Radio Libre en Périgord, et de témoigner. Et ces paroles seront les mots de la fin, puisque nous arrivons au bout de notre émission consacrée à l'artiste et à ses circuits de diffusion. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. C'était Christine Darboux, La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord.